15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours en direct de 15h à 16h. Et tous les jours en direct, j'ai la chance de l'avoir à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Quel honneur, bonjour Mélanie.
Ah, merci, je suis ravie que vous soyez là comme tous les jours. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'alcoolisme au féminin, car c'est une maladie tout à fait particulière. Les femmes alcooliques se cachent le plus longtemps possible, elles ne consultent pas. Pour en finir avec les tabous de cette maladie, notre invité du jour vient de sortir un livre sur le sujet, c'est le docteur Laurent Carilla, psychiatre à l'hôpital Paul Brousse. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude qui montre que l'heure à laquelle on prend son traitement contre l'hypertension peut tout changer. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des médicaments qui sont incompatibles ou dangereux avec la conduite. Savez-vous desquels il s'agit ? On vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. On parlera des personnes qui ont une activité sexuelle très intense, voire même qui prennent des risques. Elle répondra à un auditeur qui se demande si cela peut avoir un rapport avec les relations conflictuelles qu'il entretient avec ses parents.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Valérie, 42 ans.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. J'avais une petite question. On entend parfois parler des barbituriques, enfin surtout dans des séries et des films, j'ai l'impression. On entend par exemple, un tel a fait une overdose de barbiturique. C'est quoi en fait exactement comme médicament ? Je vous remercie, à bientôt, au revoir.
Bon Jimmy, alors les barbituriques, c'est vrai qu'on en entend parler surtout, comme elle le dit, dans les séries, dans les films. Quand on n'en a jamais pris, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est quoi ces médicaments ?
Alors c'est des médicaments qu'on a utilisés dans le début des années 1900, donc c'est un vieux médicament. On les utilise comme dépresseurs du système nerveux central, c'est-à-dire qu'ils agissent comme des anxiolytiques à faible dose et à des plus grandes doses, comme anesthésiants dans le cadre d'anesthésie générale. Et puis à une époque, on les utilisait dans certains troubles du sommeil, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément les meilleurs médicaments.
D'accord. Alors comment on les identifie ? Parce que je ne sais pas si on peut en avoir dans sa pharmacie. Je crois qu'il suffit de regarder le nom de la fin du médicament.
Exactement. Alors il y a très peu de chances que vous en ayez dans votre pharmacie, sauf si vous êtes une pharmacie ambulante, parce que ces médicaments ne sont quasiment plus prescrits, voire plus du tout prescrits, en tout cas en ville. Il suffit de regarder la fin, ils finissent tous par AL. Donc vous avez, le plus connu, c'est le phénobarbital, le thiopental qu'on utilise à l'hôpital.
Le pentotal,
c'est le nom de la marque, la molécule. Donc voilà, retenez les médicaments qui finissent par AL, souvent sont des barbituriques.
Et donc ces médicaments, vous l'avez dit, on les prescrit quasiment plus, enfin on les prescrit plus. J'imagine que c'est parce que c'est des médicaments lourds, s'ils provoquaient des overdoses, enfin ce qu'on voit dans les films en tout cas. C'est pour ça qu'on a arrêté un peu de les prescrire.
Exactement, au Royaume-Uni, ils ont fait une étude dans les années 80 sur quasiment 20 ans. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 20 fois plus d'intoxication fatale aux barbituriques comparé aux benzodiazépines, les anxiolytiques classiques. Et donc on s'est rendu compte que c'est un mauvais médicament, car il y a un risque de tolérance, de dépendance, et que même aux doses habituelles, dans le cadre d'intoxication chronique, on peut faire une intoxication aiguë et développer finalement un coma et mourir des barbituriques. Même chose dans le cadre de sevrage, si vous arrêtez brutalement ce traitement, vous avez un certain nombre de manques, mais bien plus grave que celui des opiacés. Donc on s'est rendu compte que c'est un très mauvais médicament en ville, utilisé à l'hôpital pour les anesthésies générales et dans le cadre d'état de mal épileptique. Donc c'est un traitement hospitalier et pas du tout en
D'accord.
ville.
D'accord. Alors on va profiter du fait qu'on ait un psychiatre quand même sur le plateau aujourd'hui. Docteur Carilla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déjà avec nous. On ne les prescrit plus du tout ces médicaments, les barbituriques. Vous en aviez déjà prescrit, vous, il y a quelques années ?
Non, j'en ai jamais prescrit.
Pourquoi on a arrêté finalement ?
Comme ce qui a été dit, en fait, c'est plutôt des médicaments potentiellement addictogènes. Enfin, en tout cas, moi, dans ma discipline. C'est trop à risque. C'est trop à risque, justement, d'intoxication aiguë et de surdosage.
Donc, il n'y en a plus du tout dans vos ordonnances.
Non, c'est hospitalier, très précis, comme précisé, en anesthésie ou en épilepsie, mais épilepsie assez grave, quoi.
Merci, docteur Carilla. On vous retrouve dans quelques minutes. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Marie-Hélène. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors voilà, je vais partir bientôt à Montréal, donc au Canada, et je sais qu'il y a des heures de décalage, 6 je crois, que je tolère pas vraiment bien. J'ai beaucoup de mal en fait à me recaler quand j'ai l'occasion de voyager à l'étranger. Donc je voulais savoir si vous aviez des petites astuces, des petits trucs pour que ça se passe mieux pour moi. Voilà, donc je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Jimmy, vous vous êtes toujours bien calé, donc ça tombe bien, vous allez nous en parler un petit peu plus. Le décalage horaire, ça fait quoi concrètement dans notre organisme?
C'est lié au fait que dans notre cerveau, on a une horloge biologique, une horloge interne qui nous permet de nous caler entre le jour et la nuit. En journée, on est en activité, la nuit, on dort. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Lorsque vous voyagez, finalement, vous n'êtes plus sur le même fuseau horaire. Et lorsqu'il y a trop de fuseaux horaires qui s'enchaînent, votre horloge biologique est perturbée. Elle ne comprend pas pourquoi il est le temps de dormir, alors que dans votre esprit, c'est le moment d'être en activité. Et ça peut entraîner des symptômes physiques, de la fatigue, du stress. Parfois, vous avez des douleurs abdominales, de la diarrhée.
Oui, ça peut être physique. Vraiment.
Exactement. Donc, il peut y avoir des symptomatologies physiques d'une conséquence de ce qu'on appelle le jet lag.
Alors, pour répondre quand même à la question de Marie-Hélène, est-ce qu'il y a des moyens ou, je sais pas, des astuces pour limiter les dégâts, on va dire, du jet lag
Quand vous avez des enfants qui ne dorment pas la nuit, vous êtes souvent...
Ça, vous savez de quoi vous parlez.
Exactement. Donc, moi, il n'y a aucun problème. Mettez-moi 10 heures de décalage horaire, je me remets en deux secondes. Mais pour les autres, il faut essayer de s'exposer à la lumière de façon progressive pour essayer de se réaligner sur le fuseau horaire. Une fois sur place, il faut bien s'hydrater pour ne pas être déshydraté. Caler votre montre sur l'heure d'arrivée. Évitez de raisonner avec le fait de dire, à Paris, il est 8 heures.
Ouais.
Enfin, il y a un traitement que vous pouvez utiliser quand vraiment il y a une dépendance, c'est la mélatonine qui s'utilise la veille avant de dormir. Et à ce moment, c'est le médecin qui vous le prescrit, ça peut vous aider à avoir moins de symptomatologie liée à ce jet lag.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Marie-Hélène qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude qui montre que l'heure à laquelle on prend son traitement contre l'hypertension peut changer beaucoup de choses. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour. C'est donc le psychiatre Laurent Carilla qui va tout nous dire sur l'alcoolisme au féminin. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le psychiatre Laurent Carilla, avec qui nous allons faire le point sur l'alcoolisme au féminin, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui montre que l'heure, on parlait de décalage horaire tout à l'heure, on n'est que dans l'heure aujourd'hui, l'heure à laquelle on prend son traitement contre l'hypertension artérielle pourrait avoir un effet plus ou moins bénéfique sur notre santé. Alors, c'est quoi cette étude?
Alors, c'est une étude publiée dans l'European Heart Journal. Je sais
une
que vous
revue
appréciez,
de cardiologie, oui, que je suis parfois, c'est vrai.
Et
je
vous appréciez toujours autant mon accent. 19 000 patients qui étaient hypertendus, qu'on a répartis en deux groupes. Un groupe de patients qui vont prendre leur traitement le soir avant de dormir. Et puis un autre groupe de patients, l'autre moitié, qui vont prendre leur traitement le matin, comme souvent nous les médecins le recommandons, puisqu'on pense que traiter la tension en journée serait peut-être mieux que le soir.
Bah oui.
Et on les a suivis pendant 6 ans, et durant chaque année, on surveille leur tension durant 48 heures en continu.
D'accord.
Et à la fin, on se demande si ceux qui ont pris leur traitement le soir faisaient plus ou moins de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus, ou mourraient moins ou plus de pathologies cardiovasculaires.
Et je suis sûr que c'est là que vous allez nous surprendre, c'est quoi les résultats?
Ceux qui prennent leur traitement le soir ont 30% de risque en moins de faire une crise cardiaque.
Ah oui?
Si on s'intéresse à l'accident vasculaire cérébral...
Donc vous avez tout faux en fait.
On avait tout faux. L'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, ou le fait de décéder d'une pathologie cardiovasculaire, le fait de prendre son traitement le soir diminue le risque par deux, comparé à ceux qui prennent le traitement le matin. Donc c'est une petite révolution dans finalement ce qu'on fait habituellement, apparemment un peu à tort.
D'accord, bon après vous ne faites pas du mal aux patients non plus, hein. Ça leur fait quand même toujours du bien de prendre leurs médicaments.
Mais on pourrait faire mieux.
Voilà, comment on peut expliquer ces résultats du coup?
On s'est rendu compte chez ces patients que lorsqu'ils prenaient les traitements le soir, la nuit, leur tension artérielle était plus basse la nuit, mais que dans les deux groupes, la tension artérielle restait identique en journée. C'est-à-dire que même si vous prenez votre traitement le soir, c'est pas pour autant que votre tension va augmenter la journée.
D'accord.
Et c'est lié au fait que on a une hormone qui va augmenter la pression artérielle la nuit. C'est le système rénine-angiotensine-aldostérone.
Ça, c'est un peu compliqué.
Et il y a des familles de médicaments qui bloquent cette hormone. Et en bloquant cette hormone le soir, votre tension artérielle est plus basse le soir et vous faites moins de pathologies cardiovasculaires parce qu'on s'est rendu compte dans de nombreuses études que la tension artérielle du soir est un très bon marqueur d'événements cardiovasculaires.
Plus que la tension. C'est un marqueur de pronostic, c'est ça, d'accord.
Voilà, plus que la tension qu'on va prendre au cabinet. Donc, plus votre tension est basse la nuit, mieux c'est.
D'accord. Et pour terminer rapidement, en termes d'effets secondaires, est-ce qu'il y a une différence du coup?
Strictement aucune différence dans les deux groupes. La seule chose, c'est que parfois, il y a une famille de médicaments qu'on appelle les diurétiques. Les diurétiques font faire pipi. Et donc, si vous prenez vos traitements le soir, vous pouvez être réveillé toute la nuit. Et donc, ça peut être un peu gênant. Il faudra peut-être changer le traitement. Autre limite à l'étude, L'étude n'a inclus que des patients caucasiens, donc on n'a pas de recul sur d'autres ethnies, donc à valider par d'autres études, mais peut-être qu'il faudrait plutôt prendre ces traitements le soir plutôt que le matin.
En tout cas, une piste à explorer. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Karila, il est psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et surtout, il est l'auteur du livre « L'alcoolisme au féminin » aux éditions Le Duc.
15h, 16h... Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Karila.
Bonjour.
Alors, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Donc, vous êtes venu, c'est votre anniversaire aujourd'hui.
C'est mon anniversaire, ouais.
Bon, allez, joyeux anniversaire.
Merci beaucoup.
Comme ça, c'est fait. Puis maintenant, on va parler de votre bouquin qui est passionnant. On va essayer de parler donc, évidemment, de cette maladie qui est très taboue, l'alcoolisme au féminin. Avant de parler vraiment en détail de tout ça, d'abord, est-ce qu'il faut arrêter déjà de dire que les hommes boivent plus que les femmes? D'un point de vue général, on va dire. Ça,
oui,
c'est faux maintenant.
Ouais, maintenant, il faut arrêter de dire ça. C'était vrai il y a des millions d'années. Mais enfin, j'exagère. Mais ouais, c'est vrai. Les femmes, maintenant, consomment comme les hommes. Et puis, il n'y a pas de raison qu'elles ne consomment pas comme les hommes.
Quoi. D'accord. Et donc, elles sont à risque comme les hommes. Si on regarde les jeunes femmes, par exemple, aujourd'hui particulièrement, cette parité qui concerne l'usage de l'alcool, elle est aussi le résultat très impressionnant, finalement, du marketing des alcooliers qui visait les femmes, justement, pour qu'elles rejoignent autant les hommes dans leur consommation.
Oui, bien sûr. Il y a un marketing qui est très ciblé de ces industries et qui est très ciblé aussi en termes de sexe, mais aussi en termes de génération. Ouais, il y a du marketing ciblé femmes.
En termes de sexe, justement, ciblé femmes, c'est quoi
Il y a du marketing type produits de luxe, produits de beauté, mais qui sont marketés, c'est du merchandising finalement.
Puis des boissons très alcoolisées,
du merchandising
sucré,
avec un regard qui va plaire aux femmes, quoi, avec comme du rose, des paillettes, etc.
Ils ont travaillé là-dessus vraiment pour séduire ce public-là. Si on prend les femmes un peu plus âgées, je sais pas, on a parlé des plus jeunes, mais entre 25 et 70 ans, admettons, sans forcément parler de celles qui souffrent d'alcoolisme, hein, les femmes, elles consomment combien en moyenne aujourd'hui d'alcool?
Il y a très peu de données très très fixes, mais en gros, on a vu c'est le baromètre santé quoi, qui avait ciblé sur elles peuvent consommer 1 à 6 verres par semaine, quoi. Donc c'est extrêmement variable, et c'est surtout les plus jeunes qui consomment plus.
D'accord, Jimmy.
Est-ce qu'il y a un profil social de patientes ou enfin de femmes qui auraient tendance à plus boire que les autres?
Oui, il y a l'étude Constance qui a montré, c'est assez intéressant. En fait, ça touche tout le monde, hein, ça touche toutes les classes sociales, mais il y a une étude qui s'appelle l'étude Constance, qui a été financée en partie par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui a montré que les cadres moyens supérieurs étaient un peu plus touchés que les autres. Et c'est une donnée un peu nouvelle.
Ah ouais, c'est pas. Il ne faut pas être finalement dans une situation un peu défavorisée.
Non,
ou
non,
ça touche vraiment.
Et à l'inverse, et ça c'est pour tous mes confrères et mes consoeurs, une femme qui est très très précarisée, on va spontanément lui poser la question de l'alcool. Une femme qui est cadre sup ou même chef d'entreprise, tout ce que vous voulez, hein, on va pas trop lui poser la question de l'alcool, quoi.
Dans un instant, docteur Karila, on va continuer, on ne fait que commencer cet entretien,
ouais,
bien sûr, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on va poursuivre donc sur l'alcoolisme au féminin, mais pour bien comprendre, on fera le point sur cette addiction qui est finalement très complexe, quel que soit le sexe. On verra s'il y a peut-être même un facteur génétique, je ne sais pas, qui peut faire qu'une femme rentre dans l'alcoolisme. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le psychiatre Laurent Karila. Alors, docteur Karila, avec vous aujourd'hui, on parle de l'alcoolisme au féminin.
Oui.
Mais d'abord, je sais que c'est complexe, l'alcoolisme en général. Est-ce qu'on peut quand même donner une petite définition ou il n'y en a pas en fait une définition?
Une définition pour l'addiction à l'alcool?
Ouais.
Non, on peut donner une définition pour l'addiction, après on le reporte sur toutes les substances et les comportements. Moi j'utilise un truc très simple, moyen mémotechnique, 5C et 12 mois. Donc 12 mois, il y a 12 mois de consommation. Et 5C, le premier C c'est perte de contrôle, le deuxième C c'est l'usage compulsif.
D'accord.
Troisième C c'est un usage continu. Le quatrième C c'est il y a des conséquences. Et le cinquième C c'est un mot anglais, c'est craving. Craving ça veut dire l'envie irrésistible de consommer, on peut pas s'empêcher.
C'est un bon moyen de repérer ça.
Voilà, donc 5C, 12 mois, on est addict. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique, mais c'est dérivé un peu des grandes définitions.
Ça donne quelques repères déjà.
Après on prend le mot alcool et voilà, donc 5C, alcool, 12 mois.
Parfait. Jimmy ?
Que se passe-t-il dans le cerveau de quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool ? Il y a des circuits qui sont perturbés, notamment le circuit de la récompense, non ?
Il y a le circuit de la récompense, mais il y a d'autres circuits en fait. Schématiquement, dans notre cerveau, on a pour des comportements, on va dire, de plaisir, c'est-à-dire boire, manger, faire l'amour, on a quatre circuits qui s'activent. Le premier, c'est la récompense. Donc la récompense, c'est j'ai faim, je mange. Il s'allume, il s'éteint. Le deuxième, c'est la mémoire et l'apprentissage. Deuxième circuit, donc un circuit qui est étroitement lié à la récompense, c'est depuis qu'on est petit et petite, ben, on sait quand on a faim, on va apprendre à manger, à demander à manger, etc. On pourrait prendre la même chose pour le sexe et pour boire. Hein. Le troisième circuit, c'est le circuit de la motivation. Le circuit de la motivation, ça médie, si vous voulez, le changement de comportement. C'est-à-dire que vous avez faim, donc vous savez que quand vous allez manger, la récompense va s'allumer. Vous avez appris que quand vous mangiez, c'était bien. Et la motivation, c'est vous allez tout faire pour changer de comportement et manger. Et le dernier circuit, c'est le contrôle. Il contrôle tout, en fait. Donc, il y a ces quatre circuits-là. Et ben, dans les addictions, les circuits sont désynchronisés. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez récompense-mémoire, tout seul motivation, tout seul contrôle.
Et tout ça, ça dysfonctionne, en fait.
Ouais, ça dysfonctionne. Ça veut dire quoi? Cliniquement, un addict, peu importe l'objet de l'addiction.
Ça peut être le tabac, l'héroïne, la cocaïne.
Le sexe, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Le addict, il a son circuit de la récompense et de la mémoire qui a fonctionné tout seul. Donc lui, il lui faut du produit parce que son cerveau a enregistré que la première fois, tout était bien. Mm-hmm. Donc récompense, récompense, récompense. La motivation, elle est isolée, il n'y a plus de motivation. Et puisqu'on utilise souvent le mot volonté, mais c'est un mot horrible, ça ne veut rien dire. Et le dernier circuit, ben, ils perdent contrôle. Ils n'ont pas de contrôle. Vous voyez, donc finalement, l'addiction au niveau cérébral, c'est quoi? C'est je recherche la récompense, malgré des conséquences. J'ai plus de motivation, plus de contrôle.
C'est clair comme ça. Hein, je crois, Jimmy, vous avez bien répondu à votre question. Ouais. Est-ce qu'il y a des facteurs prédisposants à l'alcoolisme et aux addictions en général? Je crois que plus on commence tôt, par exemple, plus on est à risque de devenir addict à une substance. Hein,
tout à fait. Un âge de début précoce, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas le seul. Et le problème, c'est qu'on essaye tout le temps d'avoir un facteur de risque explicatif. Il n'y en a pas, en fait.
Pas un.
Ouais. C'est la coexistence de différents facteurs. Le premier facteur au centre, c'est notre développement personnel. C'est comment se fait notre puberté, comment mature notre cerveau.
Comment on est aimé par ses parents ou pas.
Ça c'est vraiment le développement. Et ça, c'est le côté après psychologique. Donc, côté psychologique, c'est trouble dépressif, trouble anxieux, trouble du sommeil, est-ce qu'on est hyperactif, comment on réagit aux choses. Il y a un troisième facteur, c'est le facteur environnemental. C'est important, c'est nos parents, nos copains, les produits disponibles, les comportements disponibles, vous voyez, tous ces éléments-là. Mmh. Donc il y a trois facteurs. Et il y en a un quatrième qui est génétique, donc ça n'explique pas tout, mais 40 à 60% de la maladie. Et le dernier facteur, c'est vraiment du cerveau, purement du cerveau. C'est comment notre cerveau réagit finalement aux choses. Et en fait, pour être addict, il faut que ces cinq facteurs-là soient déstabilisés.
Mmh. Jimmy ?
Vous avez parlé un petit peu de la génétique, ce qui veut donc dire que si on a des parents qui ont souffert d'alcoolisme, on est plus à risque que les autres. Et est-ce qu'on a identifié un gène, peut-être, justement, de la dépendance de l'alcool ?
Non, il y a plein de tentatives d'études génétiques, d'études d'associations génétiques. Il y a probablement des gènes qui jouent, puisque ça explique 40 à 60% des problèmes, même 70% selon les études. Mais il n'y a pas de gène spécifique. Parce que si on avait ciblé le gène spécifique, on part sur la thérapie génique et hop, c'est nickel. Là, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que si on a dans la famille des personnes qui ont une addiction, et en l'occurrence, si on parle d'alcool, il y a plus de risques de le faire. Mais on ne va pas pour autant le faire. Il faut vraiment que les autres facteurs soient déstabilisés.
Revenons à notre sujet du jour, l'alcoolisme au féminin. Est-ce que, à dose égale, une femme qui boit, vous dites qu'elle boit quasiment aujourd'hui autant que les hommes, est-ce que les effets, notamment néfastes sur le cerveau, ils sont plus graves, par contre, sur la femme qui boit?
Il y a des différences physiologiques et pharmacologiques qui sont claires entre les femmes et les hommes sur c'est des différences, on va dire, morphologiques. À âge égal, à quantité égale, une femme qui va boire la même chose qu'un homme, elle va stocker plus vite et l'alcoolémie va être plus élevée. Donc il y a des conséquences, si c'est répété, oui, il peut avoir plus de risques sur le foie, de risques sur d'autres organes et sur le cerveau aussi.
Et des risques de cancer éventuellement aussi?
Oui, il faut le souligner, hein, l'alcool ne consommé de manière addictive, hein. Et excessive, plus, on va dire d'abord excessive puis addictive, est à l'origine de 17% des cancers du sein, il faut le dire. Et faut dire que les femmes qui ont des cancers du sein ne sont pas toutes des alcooliques, c'est ça le truc, hein, c'est un facteur de risque de cancer du sein.
Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup l'alcool et le sein, effectivement. Pour terminer, juste, il n'y a pas de catégorie sociale, on est d'accord, dans l'alcoolisme au féminin. Voyez des femmes qui viennent de tous les milieux.
Ouais, et après, je vous dis, en fonction des âges et des générations, c'est un peu différent, mais globalement, c'est tous les milieux sociaux.
Docteur Carilla, nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Quelles sont les caractéristiques de l'alcoolisme au féminin? Pourquoi les femmes mettent-elles souvent plus de temps à consulter que les hommes? Comment peut-on leur venir en aide? Est-ce différent de tenter de sortir de l'alcoolisme quand on est une femme ou un homme? On vous dit tout juste après, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Carilla. Il est psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et l'auteur de L'alcoolisme au féminin aux éditions Le Duc. Docteur Carilla, dans votre livre, il y a plusieurs femmes qui ont eu le courage de oui. témoigner, ouais, ouais. avec des profils tout à fait différents, ouais. ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Mais une maladie, elles ont une maladie commune, elles ont des profils ouais. différents, mais une maladie commune. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans, quand vous avez assemblé ces témoignages finalement?
D'abord, chaque histoire est très très forte. C'est un truc important. Elles ont témoigné spontanément. Alors, il y en a que j'ai rencontré un peu partout. Hein.
Ce n'est pas forcément vos patientes,
non,
hein,
non,
d'ailleurs.
Non, non, ouais. il y a c'est quasiment pas mes patientes, en fait. C'est des femmes que j'ai rencontrées sur Facebook, dans des émissions de télé sur l'alcool. Des femmes qui ont voulu témoigner. J'avais lancé un appel à témoins sur mon réseau social. Et j'ai eu des tonnes de femmes qui voulaient témoigner et écrire quelque chose. Et ça, c'est hyper important. Et si en résumé, c'est elles sont toutes différentes, elles ont une clinique qui est complètement commune.
Jimmy,
c'est un peu de sémantique, mais je pense que c'est important d'en parler. Comment est-ce qu'on doit définir justement des gens qui souffrent de dépendance à l'alcool? On a du mal à dire certains mots. J'ai l'impression que quand on dit les alcooliques, c'est péjoratif, les alcoolodépendants, les personnes qui ont une addiction. Quel est le bon terme pour ne pas blesser les gens, mais aussi en même temps être un peu factuel?
Moi, j'aime mieux utiliser le mot addiction à l'alcool, en fait. Mmh. Je trouve que c'est moins...
Dire une alcoolique, un alcoolique,
alors,
on dit plus
alcoolisme,
ça.
Alcoolisme, ouais. alcoolique. Bon, on l'appelait l'alcoolisme au féminin parce que c'est parlant, mais c'est assez péjoratif de dire à quelqu'un, toi, t'es alcoolique, je trouve.
Mmh. On le dit moins cool. aujourd'hui, vous ne l'utilisez pas, vous, en addictologie, ce mot-là.
Non. On utilisait le mot alcoolodépendant ou dépendance à l'alcool. C'est en référence aux classifications internationales, en fait. Dans la classification de l'OMS, c'est plutôt dépendance à l'alcool. Dans la classification américaine, c'était plutôt aussi dépendance sur la quatrième. Et sur la cinquième, ils ont tout enlevé. Et ils parlent maintenant, sur le plan médical en tout cas, de troubles d'usage d'alcool. Et je trouve que utiliser ce terme-là, finalement, avec des critères en fonction du score au diagnostic, et ben ça permet de moins stigmatiser les gens.
Dans votre bouquin, on voit que donc, toutes ces femmes qui témoignent, le démarrage de la maladie alcoolique, il est souvent très différent. Il y a par exemple le cas de Nathalie, qui a 47 ans, qui témoigne. Elle, tout a démarré, on a l'impression, après une chirurgie de l'obésité, où elle perd des tas de kilos. C'est bizarre, parce qu'on imagine que c'est là où elle aurait dû se sentir le mieux, mais elle s'est perdue, en fait, c'est ça. Parfois, c'est une perte d'identité, comme ça, qui fait que l'alcool, ça démarre.
Non, mais quand vous relisez les histoires de ces femmes, en fait... elles expriment tous ces facteurs de risque qu'on a évoqués un peu plus tôt dans l'émission. C'est-à-dire que, oui, il y a un petit facteur déclenchant potentiel, mais il y a de la souffrance qui est masquée.
Sous-jacent, peut-être.
Et ouais, c'est ouais. complètement sous-jacent. Il y a cette vulnérabilité qui est présente et qui n'est pas forcément tout le temps exprimée. Et hop, tout explose. Oui, parce qu'elles ont vraiment des âges différents. Et elles ont la même maladie.
Et ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, il y a des années d'errance ouais. à se cacher. Hein, ouais. Ça, dans ouais. tous les témoignages, ouais. quasiment, on le voit. Parfois, ouais. c'est 10 ans, parfois, c'est encore ouais. plus. Elles se cachent toutes, quoi.
Elles se cachent
plus que
toutes.
Les hommes,
ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que, finalement, cette question d'addiction à l'alcool chez les femmes, c'est un problème qui est secondaire, mais qui est grave. Mais c'est secondaire, souvent, à des problèmes psychologiques sous-jacents, quand même. Qui sont très, très présents, comme la dépression ou des troubles anxieux. Et une histoire personnelle qui peut... On parle pas assez, par exemple, de l'abus sexuel des femmes. Et
c'est souvent y en ça qui...
Non, mais ouais. ça fait partie, et il faut interroger sur ça. Parce que c'est un traumatisme qui reste enfoui, et souvent, ça peut tout faire exploser plus tard. Quoi.
Jimmy ?
Et parfois, la dépendance à l'alcool s'installe sur plusieurs années sans ouais. que personne ne s'en rende compte, pas même ouais. le mari... avec qui ouais. elle peut vivre tous les jours.
Il y en a dans le livre, il y a un témoignage comme ça d'une femme qui, ouais, son mari, pendant 10 ans, il n'a rien vu.
Bien sûr, elle cache, elle masque.
Mais comment on peut cacher avec quelqu'un avec qui on vit tous les jours?
Ben, on cache, on masque, on boit de manière étagée, étalée.
On planque les bouteilles dans la cheminée.
Il y a dans le bouquin, on voit que les techniques pour planquer, elle raconte comment elle cache les bouteilles dans les tiroirs à sous-vêtements, etc. Et surtout, c'est une femme qui est maman, qui a un travail, qui a des tâches de partout, qui a une charge mentale, qui est monumentale. Faut le prendre en considération, tous ces éléments-là. C'est que se rajouter de l'alcool, au départ, c'est un peu anxiolytique, je vais me détendre. Mais à un moment, si ça prend le dessus, c'est compliqué. Et en même temps, elles ont toutes ces tâches à faire, c'est-à-dire à être maman, à avoir le job.
Et pendant longtemps, elles donnent le change, elles le font.
Ouais,
hein,
ouais. C'est ça le truc. C'est ça le problème.
Il y a 10 jours, j'ai vu une patiente comme ça qui, le matin avant d'aller travailler, elle me dit, pour me donner de l'énergie, du courage, je bois.
Ouais.
Et derrière, c'est une maman qui est seule, elle a 3 enfants, une situation un peu précaire, ouais. un travail difficile, et elle assume toutes ses autres tâches. C'est-à-dire, malgré la dépendance à l'alcool, elle avait conscience de ce problème, elle continue de vivre une vie quasiment normale. Personne autour ne se rend compte qu'elle est dépendante, sauf qu'elle me dit, ça y est, je me sens déprimée. Parce que ça, on oublie de le dire, l'alcool rend dépressif, même si on ne l'était pas.
Oui, bien sûr. C'est ça, ouais, c'est très dépressogène. Et de ce que vous dites, c'est très intéressant. C'est que moi, je vois aussi des femmes qui mettent du temps, honnêtement, hein, femmes versus hommes, les femmes mettent plus de temps à dire pour l'hospitalisation. La question de l'hospitalisation, je travaille à l'hôpital. Quand je dis là, je pense qu'il faut que vous fassiez hospitaliser, la durée de réflexion est beaucoup plus longue chez la femme, quel que soit l'âge.
Parce qu'il faut organiser aussi, c'est ça.
Ouais, parce qu'elle me dit, moi, je peux pas me faire hospitaliser.
J'ai les enfants, ouais.
J'ai les enfants, j'ai mon mari. Comment je vais faire?
Comment ils vont faire sans moi aussi, c'est ça?
Ou j'ai mon chat, j'ai mon chien. Comment je vais faire?
Alors que les hommes, ils vous disent plus facilement oui pour l'hospitalisation.
C'est finalement une maladie plus primaire chez l'homme, c'est-à-dire que il y a d'abord cette addiction à l'alcool qui peut se compliquer de troubles psychiatriques comme des dépressions, etc. Chez la femme, c'est un peu l'inverse et c'est beaucoup plus complexe. Et encore une fois, quand on traite un addict, et ça c'est valable pour les femmes et les hommes, il ne faut pas se focaliser sur la substance. Mmh. Il faut se focaliser sur la globalité. Et dans le bouquin, j'utilise toujours un modèle d'arbre.
Mmh, c'est vrai.
C'est que l'addiction, en fait, la substance, c'est qu'une branche de l'arbre. Il faut traiter toutes les racines.
Mmh. Et donc le problème qui en découle du fait de se cacher comme ça pendant des années, c'est qu'elles consultent très tard. Et quand elles arrivent, parfois, elles sont vraiment détruites. Hein.
Elles sont. Et il y a plus de complications, plus sévères.
C'est-à-dire...
On le voit. Ben, il peut y avoir plus de complications du foie. Vous parliez au début de l'émission de tension artérielle. Il y a plus de problèmes d'hypertension artérielle à cause de l'alcool chez les femmes. Il y a plus de risques d'accidents vasculaires cérébraux un peu différents. On voit plein de choses. Plus, quoi.
Parce qu'elles attendent trop.
Ouais.
Jimmy ?
Il y a aussi un problème avec l'alcool, c'est que souvent l'alcool est souvent associé à un contexte festif, un peu mondain.
Oui.
Et refuser de boire, je sais pas, je pense que Mélanie peut aussi le dire, pendant le dry January, c'est compliqué d'expliquer aux autres.
On est très sollicité, ouais.
De se dire, bah non, je ne bois pas. Il y a aussi une pression de la société qui nous oblige à boire, en fait, même quand on n'a pas spécialement envie.
Beaucoup de femmes souffrent de ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain.
Alors, je déteste ce
je
mot
sais,
mondain.
Je l'ai vu dans votre livre, mais je suis obligée de lui dire quand même.
Ouais, non, vous avez raison, parce qu'on l'utilise, ouais. L'alcoolisme mondain, c'est un usage d'alcool potentiellement à risque de problème. Et comme personne ne sait quel est son risque de problème, c'est là où est le risque.
Comment vous l'appelez si on ne l'appelle pas l'alcoolisme mondain?
Ça, l'usage a potentiellement un risque de problème. J'appelle ça comme ça. Mais ça, c'est un terme médicalisé. Mais c'est ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain. Et cet alcoolisme mondain, en fait, finalement, il peut être à risque chez certaines et chez certains.
Parce qu'on ne boit pas tout le temps, on boit trop dans certaines occasions qui sont souvent, reviennent souvent.
Exactement, c'est le fait de répéter, de boire beaucoup, de ne pas faire attention.
Quand est-ce que cet alcoolisme, vous n'aimez pas le mot mondain, il devient problématique? Parce que si on boit comme ça, on a un alcoolisme mondain, mais deux fois par an, ce n'est pas bien grave.
C'est pas très grave,
voilà,
ça. Mais... Attention, je ne veux pas diaboliser les consommations d'alcool. Mmh. Il y a des recommandations de Santé publique France qui disent...
Deux verres par jour et pas tous les jours.
Voilà, c'est ça, divers semaines avec deux jours off. Donc on reste sur ce truc-là. On peut boire un peu d'alcool.
On a le droit de boire moins aussi, hein, on est d'accord.
On a le droit de boire moins aussi, voilà, je ne veux pas dire...
Ou pas du tout.
Ouais, ou pas du tout. Mais le risque, eh ben, c'est quand on augmente ces niveaux de dose. Quoi.
Jimmy ?
On a l'impression que l'alcool, notamment chez les femmes, c'est un problème de jeunes femmes et pas forcément de personnes âgées. Qu'à 70 ans ou 80 ans, on n'a plus de problème avec la dépendance, alors que c'est plutôt faux.
Non, c'est faux. On ne s'intéresse pas assez. Autant, on disait tout à l'heure, les femmes en situation de précarité, on leur pose immédiatement la question de l'alcool. Il grossit des reçus, les cas de sup, on ne le fait pas. Et autant là, pareil, les seniors, j'ai été étonné, mais... On se focalise pas assez chez l'alcoolisme chez les femmes seniors. Il faut voir.
Il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont, je sais pas, 70 ans qui sont.
Vous avez un témoignage d'une femme qui est poignant, qui dit qui a commencé tardivement sa consommation d'alcool à la retraite.
Et ça, le problème, c'est que souvent, même je sais pas, les enfants de ces gens-là, ils se disent bon, après tout, elle a 70 ans, ça a plus d'importance à cet âge-là.
Ils commencent aussi à s'inquiéter. Moi,
c'est ça.
Il y a des solutions. Ouais, ils rentrent après dans la prise en charge.
Il faut s'inquiéter pour eux.
Bien sûr, il faut s'inquiéter.
À cet âge-là, c'est quoi le risque justement?
Ben, c'est encore plus de complications, plus d'incidents et d'accidents. Au niveau cérébral, au niveau cognitif, c'est plus à risque. Et aussi, on peut faire beaucoup plus de chutes, hein, je vous rappelle, etc. Et faire des hématomes intracrâniens, etc. Donc, quel que soit l'âge, il faut poser la question, en tout cas nous en tant que professionnels, et l'entourage qui commence à s'inquiéter sur « Ah, peut-être il y a une consommation un peu exagérée », il faut aller rechercher de l'information.
D'informations, et puis après on amène son proche éventuellement.
Sur quelqu'un qui connaît la question.
Et qui est
le premier acteur, encore une fois, médecin traitant.
Quand même.
Premier acteur.
Parce que dans votre livre, on a un peu peur aussi, on voit des témoignages où justement on a l'impression que le corps médical, il n'est pas non plus tout le temps hyper bien formé sur le sujet. On a une femme qui témoigne dans votre livre qui dit j'ai 38 ans, j'arrive chez mon médecin et je lui dis docteur, j'ai 38 ans, je suis alcoolique. Et il lui dit bon, non, vous n'êtes pas alcoolique, sinon vous ne le diriez pas. Et puis vous ne buvez pas assez souvent pour être alcoolique. Donc il y en a bien qui ne connaissent rien, on est d'accord.
Il y en a qui connaissent moins bien, je ne vais pas critiquer mes collègues, mais il y a un truc, c'est si on pense ne pas avoir la réponse suffisante à un problème, et c'est valable pour toutes les pathologies, et ben on demande un deuxième avis.
Mmh, c'est ça.
Et c'est pareil pour les addictions.
Jimmy ?
Lorsqu'on tente d'arrêter de boire, il est, je pense, fréquent de ne pas réussir la première fois. C'est un peu comme le tabac. Il faut l'échec au tout début, il est presque, je ne vais pas dire normal, mais il est attendu.
Tout à l'heure, dans la définition des addictions, je dis toujours tout à l'heure, parce qu'on se dit des choses importantes, c'est la rechute fait partie de la maladie addictive.
C'est partie de la guérison aussi ?
Oui, bien sûr, c'est dans le process, en fait.
Ah ouais, il faut un petit peu échouer pour y arriver, quoi.
On échoue un peu. Oui, c'est très difficile. La rechute fait partie de la maladie.
J'ai mis 6 fois à arrêter de fumer, je me dis qu'effectivement,
voilà,
c'est ça,
rechuté,
c'est dur.
Vous avez rechuté plusieurs fois et vous reprogrammez au fur et à mesure votre cerveau.
Et avec l'alcool, c'est pareil.
Avec l'alcool, ben, y a des risques de rechute qui sont toujours difficiles pour l'entourage et pour la personne en question, mais ça fait partie du process.
Ouais. Et les femmes alcooliques qui s'en sortent, par contre, donc elles rechutent. Ça, on le voit quasiment dans tous les témoignages de votre livre. Et parfois, il faut faire des cures et des cures et des cures. On voit et ça marche pas. Donc ça veut dire que ces cures, elles sont pas non plus forcément très efficaces.
La cure, moi j'aime pas trop ce mot-là aussi, mais la cure, en fait, le sevrage, la désintoxication à l'hôpital, en fait, c'est la première étape du problème. C'est-à-dire, on va initier, parce que la demande pour toutes ces patientes et pour beaucoup de gens, c'est être abstinent en alcool. Mmh. Donc cette initiation d'abstinence...
Ça passe par l'hospitalisation ?
Pas forcément, on peut le faire en ambulatoire en fonction de la gravité. Quand c'est grave, on utilise l'hospitalisation. Quand il y a plein de pathologies associées, on utilise l'hospitalisation. Mais cette initiation d'abstinence, elle doit s'envisager dans un programme très long. C'est-à-dire que c'est facile de désintoxiquer les gens. Je suis désolé de le dire comme ça. Le plus dur, c'est la suite. Donc il faut se focaliser sur la suite.
Jimmy ?
Vous dites la suite c'est le plus dur, c'est-à-dire que dans le cadre de cancer, on peut parler parfois de rémission complète. Ouais. Est-ce qu'on peut être en rémission complète de la dépendance à l'alcool ou faudra toujours se dire qu'un jour il y a un risque de rechute et qu'on aura toujours cette dépendance et donc peut-être identifier des moments de la vie où on sera plus à risque de replonger, si on peut dire les choses
comme ça. On peut utiliser ce modèle-là, c'est vrai. Et par exemple dans certaines associations où les alcooliques anonymes, une association que j'apprécie, parce qu'il faut parler aussi des associations de malades qui aident beaucoup, beaucoup les malades. Ils n'aiment pas trop le mot guérison. Mais moi, j'aime bien utiliser le mot guérison, en fait. Et qui dit guérison, dit qu'il peut avoir d'autres problèmes. Et pour moi, un cerveau addict, guéri, reste toujours un cerveau addict, qui est vulnérable.
Donc toujours rester vigilant.
Il faut toujours rester vigilant. On le voit bien. Des gens qui arrêtent de fumer, on prend le tabac, qui est un exemple classique, qui arrêtent de fumer 25 ans, qui rechutent.
Bien sûr.
Et vous avez des patients qui remplacent l'addiction à l'alcool par autre chose et qui tout d'un coup se mettent à fumer ou...
Non, on essaye de prendre en compte toutes ces variables-là. Qu'il y ait pas de... Moi, j'aime pas le transfert d'addiction, j'y crois pas trop. Mais il faut être prudent sur... Parce que quand on soigne un malade addict, il n'a pas qu'une seule addiction. Hein. Il a d'autres consommations associées et il faut prendre en charge tout ça.
Il y a le témoignage de Nathalie dans votre livre qui donc est devenue abstinente après plusieurs cures de sevrage. Et elle dit effectivement ce que vous dites un peu. Je suis devenue abstinente, j'ai eu un déclic à la 6e, je ne sais plus la combienième cure. Mais elle dit ce qu'il fallait vraiment devenir pour le rester, c'est devenir une abstinente heureuse.
Bien sûr.
Ça, c'est primordial.
Bien sûr. C'est donc traiter le à côté, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a traité le problème... Moi, j'ai pas traité Nathalie. Nathalie, j'ai rencontré sur un plateau télé. Et elle avait un témoignage tellement puissant que
c'est vrai, il est incroyable dans les livres.
Elle est incroyable, cette femme. Et maintenant, elle est quasiment une patiente experte.
Et d'ailleurs, elles ont toutes l'air incroyables dans votre livre. Parce que
incroyables.
Je crois que se sortir de l'alcoolisme comme ça, ça fait de ces femmes-là, en tout cas, celles
qui ont témoigné. Super héros.
Mais c'est vrai, elles sont particulièrement intéressantes, pleines de vie. Il y a quelque chose, quand même.
Je sais pas si vous avez lu le témoignage de Danielle, qui a plus de 70 ans. Elle est formidable. Elle fait du stand-up.
Puis derrière, elles ont souvent ce besoin d'aider les autres aussi, j'ai l'impression.
Et ça, c'est une variable commune dans les addictions.
Jimmy ?
Pour faire un point sur sa consommation, est-ce qu'il existe des tests simples, un questionnaire qu'on peut tous faire pour se dire, tiens, peut-être qu'il y a un problème.
Il y a le questionnaire, dans le bouquin j'en ai mis plein, il y a le questionnaire FACE, F-A-C-E.
Ça on trouve sur Internet ?
On le trouve partout, sur Internet, c'est un questionnaire qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est un questionnaire qu'on utilise
c'est
en pratique clinique.
C'est pas trop long à faire
c'est très très simple, et il y a un score femme-homme, et il y a un score en fonction du risque, et après en fonction de où on se trouve, il faut s'orienter sur une prise en charge.
D'accord. Et là, donc, on va voir soit son généraliste, soit on ne va pas débarquer directement dans un centre d'addicto, ça ne sert à rien au départ.
Non, centre d'addicto, c'est... faut d'abord en parler avec son médecin traitant. Si le médecin traitant se sent... Et s'il ne sent pas, il l'envoie sur un centre spécialisé.
Merci beaucoup, Dr Carilla, d'être venu sur notre plateau nous parler de cette maladie qu'il faut faire sortir du silence. Je rappelle le titre de votre livre, L'alcoolisme au féminin, aux éditions Le Duc. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux médicaments qui sont incompatibles ou dangereux avec la conduite. Savez-vous desquels il s'agit ? On vous en dit plus dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Et aujourd'hui on parle des médicaments et de la conduite. Savez-vous lesquels sont dangereux si vous prenez le volant? Lesquels sont carrément contre-indiqués? Et comment repérer ça sur leur emballage d'ailleurs? Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Généralement, c'est marqué sur les boîtes des médicaments, les niveaux.
Faut faire attention, parce qu'il y a des petits pictogrammes avec des niveaux 1, 2 et 3. Et le 3, c'est le plus dangereux.
Si le médecin nous le dit au moment de prescrire qu'il faut pas le prendre à tel moment parce que ça provoque des endormissements.
Généralement, c'est des médicaments assez forts. Doliprane, non, je crois pas.
Tout ce qui est anxiolytique, antidépresseur, il y a des sirops quand on est malade qu'il faut éviter parce qu'ils provoquent des endormissements. Même tout ce qui est antihistaminique pour les allergies ont tendance à faire dormir.
On est un peu non, on ne doit plus avoir de réflexes et des choses comme ça. Bah, le risque, je crois que c'est beaucoup d'endormissement parce que c'est des médicaments qui vont fatiguer l'organisme, donc on va s'endormir plus facilement. Et du coup, on va avoir aussi des temps de réaction qui vont être augmentés. Donc si on a freiné brusquement, par exemple, et ben, on va pouvoir mettre trop de temps à freiner ou des choses comme ça.
Bon Jimmy, conduire et prendre des médicaments, il y a quelques règles à avoir en tête quand même pour prendre aucun risque. D'abord, il y a vraiment beaucoup de médicaments qui posent problème.
Oui, c'est environ un tiers des médicaments qui sont commercialisés en France.
Quand même,
et
ouais.
Un médicament sur 50 est classé comme incompatible totalement avec la conduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition à un médicament potentiellement dangereux est retrouvée dans environ 10% des accidentés de la route. Et
beaucoup.
C'est lié au fait que les capacités de conduire peuvent être altérées par des effets indésirables de traitement. Ça peut être majoré par l'alcool ou encore une fois aggravé par un état de fatigue. Donc c'est-à-dire même un médicament pris comme ça n'a pas l'air très dangereux, mais si vous combinez fatigue, alcool, vous pouvez augmenter vos troubles de la vigilance et donc votre risque d'accident.
D'accord. Alors quels sont les médicaments qui posent problème précisément avec le fait de conduire un véhicule motorisé quand même? Parce
alors,
qu'on ne parle peut-être pas de... Ouais,
c'est-à-dire
bah un vélo,
si,
ça
un vélo,
peut être dangereux
vous exactement
ouais,
avoir les mêmes risques.
Pour conduire tout court alors.
Alors évidemment, c'est la famille des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs. Ce sont les substances les plus fréquemment retrouvées dans les analyses de sang dans les accidentés de la route, mais c'est des médicaments qui sont essentiellement prescrits par votre médecin. Et donc, normalement, il a un devoir d'information et de vous dire attention, la conduite est déconseillée. Puis vous avez votre pharmacien, deuxième filtre, qui devrait aussi vous expliquer les choses. Mais attention, vous avez certains traitements qui sont en accès libre à la pharmacie, qui peuvent aussi vous donner des effets secondaires avec de la somnolence et un risque majoré d'accident.
Ah oui, parce que bon, c'est vrai que somnifère, anxiolytique, tout ça, on imagine bien que ce n'est pas tout à fait compatible avec le fait de conduire une voiture. Par contre, vous dites qu'il y en a d'autres qui sont plus étonnants et auxquels on ne pense pas forcément. C'est
exactement.
Quoi ces
et
médicaments
quand on parle des anxiolytiques, on oublie que certains ont une demi-vie très longue. Certains vont rester 40 heures, 50 heures dans le sang, alors que d'autres ont une demi-vie très courte. Et donc, il faut prendre ça en compte. Vous en avez certains qu'on connaît bien, sans dire des marques, qui vont avoir une demi-vie très très longue, donc ils vont s'accumuler dans le sang.
Même deux jours après le traitement, on en a encore.
Vous avez toujours encore dans le sang. Alors, il y en a d'autres qui ont une demi-vie très très courte, hein, 4 à 6 heures, et vous pouvez éventuellement prendre la route sous contrôle que votre médecin dise OK, le pharmacien. Donc déjà, il faut faire attention. Il y a des médicaments qu'on ne soupçonne pas souvent. Les sirops contre la toux, ils sont somnifères, ils se font dormir, et souvent, le mécanisme d'efficacité contre la toux, c'est lié au fait qu'ils vous shootent, donc vous dormez, et donc ils sont incompatibles avec la conduite.
Bon,
certains antihistaminiques, les anti-allergiques, ils sédatent, donc eux, ils sont incompatibles avec la route. Et puis certains antalgiques, les traitements à base de codéine, les dérivés de la morphine, font dormir et rendent somnolents, d'autant plus qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses. Donc il y a une multitude de facteurs qui peuvent vous conduire à l'accident.
C'est difficile effectivement de savoir vraiment quel médicament est difficile tellement il y en a. Vous avez dit 1 sur 50, c'est ça? Bon, concrètement du coup, est-ce qu'il y a un moyen, on va dire, je sais pas, sur l'emballage par exemple, je crois qu'il y a un pictogramme qui permet de repérer finalement quels sont les médicaments pas tout à fait compatibles avec le fait de conduire?
Exactement. Alors, vous demandez conseil à votre médecin traitant, conseil au pharmacien, et puis vous regardez la boîte de médicaments, vous lisez la notice, et donc vous avez sur le conditionnement extérieur du médicament un petit pictogramme qui vous dit si le médicament a un effet sur la conduite automobile. Donc, c'est un petit triangle qui est présent sur la boîte qui constitue une forme d'outil d'alerte.
Un triangle avec une voiture, il y a une couleur et d'un chiffre, je crois.
Il est décliné en trois couleurs, associées finalement à un niveau de risque de 1 à 3. Vous avez jaune, orange ou rouge.
Bon, plus c'est rouge, plus c'est mauvais, hein, c'est
exactement.
Ça ouais.
Au moindre doute, évidemment, demandez conseil à votre pharmacien et puis lisez la notice. C'est finalement, à part ceux que j'ai dit qui avaient un petit rôle de surprise, comme les antihistaminiques, les sirops contre la toux, ça reste du bon sens. Même chose si vous avez, on parle de la conduite, mais une activité mécanique manuelle dangereuse, vous travaillez sur un chantier avec une grue.
Il faut être vigilant et si vous prenez des médicaments, faites attention. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Avec elle, on parlera des personnes qui ont une activité sexuelle très intense, voire même qui prennent des risques. Elle répondra à un auditeur qui se demande si cela peut avoir un rapport avec les relations conflictuelles qu'il entretient avec ses parents. Mais d'abord, on écoute de la musique avec la chanteuse Madeleine Perroux. Ça s'appelle « Don't Wait Too Long ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste, pas que pour nous, à Paris quand même, vous exercez. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Quentin, 24 ans, je vous la lis. Je suis homosexuel et je me rends compte que j'ai toujours eu une activité sexuelle intense, parfois à risque. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec le fait que mes parents ne m'aient jamais vraiment accepté comme je suis? Catherine, d'abord, de manière générale, est-ce qu'un rejet familial, ça peut avoir des conséquences directes sur la sexualité de la personne, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle d'ailleurs ?
Quelques rejets que ce soit, de toute façon, de la part des parents vis-à-vis de leur enfant, entraînent une lecture de l'enfant quant à lui-même, une revendication le cas échéant pour être vu, entendu, reconnu, donc avec des tas de pratiques diverses, là je ne parle même pas du sujet de la sexualité, et potentiellement aussi une appropriation d'une lecture négative quant à soi et d'une mise en danger le cas échéant. Si on sent qu'on n'est pas aimé, on peut participer de son amour pour soi-même.
Et pour Quentin, du coup, vous pensez que l'homophobie de ses parents, c'est lui qui le dit, hein, pourrait avoir influencé sa sexualité, c'est possible ?
Oui, ça peut tout à fait être le cas, c'est-à-dire avoir besoin d'être reconnu par le plus grand nombre, donc par le plus grand nombre de partenaires.
Ouais, c'est ce qu'il a l'air de dire.
Et puis aussi, mais de façon un peu ambivalente, parce que par ailleurs, avoir beaucoup de partenaires, c'est aussi ne se fixer nulle part. Donc une façon, d'une certaine manière, d'être pas reconnu par un qui prend le temps d'aimer et de construire une relation. Donc finalement, il veut être reconnu par le plus grand nombre, mais en même temps, il ne se casse nulle part, d'une certaine manière. Et puis, il a des comportements à risque, comme s'il cherchait, d'une certaine manière, à flirter avec la punition potentielle.
Jimmy ?
Et comment savoir s'il a une activité sexuelle intense juste par pur plaisir et que c'est son mode de vie, son mode de fonctionnement, et pour l'instant, il est content comme ça, ou si c'est lié au fait que ses parents l'aient rejeté ? Est-ce que lui peut identifier des choses pour savoir s'il y a vraiment un problème ou pas?
Moi, j'aurais tendance à dire que à écouter ce qui est dit, dans la mesure où la formulation de sa question nous met sur la piste du rejet parental, je n'irai que dans ce sens-là. Bien évidemment qu'il y a une curiosité chez tout jeune homme homosexuel ou hétérosexuel, la curiosité de l'expérience, de la démultiplication des expériences, surtout à notre époque, qui laisse à penser que c'est comme ça qu'on se construit, est assez naturel. Mais puisqu'il insiste sur le fait que son homosexualité n'a pas été accueillie et que peut-être il y aurait un lien, le peut-être est entendu comme un lien qu'il demande à la personne à qui il pose la question, nous en l'occurrence, d'entendre.
Et donc vous pensez vraiment que c'est ce côté manque d'amour, alors il ne dit pas qu'il n'a pas été aimé, mais en tout cas il a été rejeté, qui fait qu'il cherche, alors pas de l'amour, mais de l'attention vraiment de plein d'autres personnes, c'est ça ? C'est un manque d'amour, c'est lié à l'amour tout ça ou pas ?
En fait, quand nous nous construisons, on a besoin d'avoir confiance dans nos choix, d'avoir confiance dans ce que nous ressentons. C'est difficile d'ailleurs de s'approprier son propre chemin, parce qu'on a tendance à être souvent dans la répétition de ce que sont nos parents, de ce que veulent nos parents pour nous-mêmes, en tout cas de ce qu'on a imaginé qu'ils voulaient pour nous-mêmes. Très difficile de s'émanciper de tout cela. Et quand s'impose une sexualité divergente, eh bien évidemment qu'il y a une grande peur de trahison, une grande peur d'infidélité à sa culture et à l'éducation qui a été la sienne. Et évidemment que l'enfant a besoin d'être rassuré quant à la légitimité de faire d'autres choix que ceux des parents. Donc c'est douloureux quand il n'est pas accepté, parce qu'il y a inévitablement le sentiment que tout ce qui s'initie en moi, s'origine de moi, n'a pas lieu d'être. Donc il y a une sorte une course folle à essayer de trouver des appuis ou une société ou un groupe social, donc à être dans de l'entre-soi homosexuel, pour retrouver une place, chercher une place dans laquelle on puisse être reconnu.
Jimmy, vous avez une question ?
Oui, on a cru comprendre du coup l'activité sexuelle intense, pourquoi il recherchait ce genre de sensation, mais à risque. Pourquoi chercher des risques dans les relations sexuelles ? Qu'est-ce que ça lui apporte ?
C'est flirter, comme je disais tout à l'heure, c'est flirter avec la punition. C'est-à-dire que c'est ça qui est difficile, c'est que nos parents, s'ils ne veulent pas de choses pour nous, par exemple qu'on fasse le mur, ne pas faire le mur, c'est risquer de rester dans la soumission du parent. Et si moi, il y a quelque chose d'important pour moi, je veux y aller quand même, mais à la fois, je porte l'interdiction parentale, et du coup, je me mets dans des situations où le risque est plus grand que le parent ait raison. Et donc, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'enfant, il est toujours dans une volonté de conquérir sa liberté.
Jusqu'où
et à la
aller.
Fois, mmh. il porte l'interdit parental et très souvent, il provoque la phrase après qui arrive des parents. Tu vois, je te l'avais dit. Eh bien, c'est la même chose là, chez l'adulte, le jeune adulte, qui est « je fais et je fais à risque ». Comme s'il me fallait entendre finalement la voix parentale qui me dit bah, « tu vois, si tu t'étais protégé, te serait pas arrivé ça ». Et là, c'est gravissime, ou un peu grave, mais gravissime, mais tu pourrais en mourir, par exemple, comme c'était le cas pour le sida. Comme s'il fallait être estampillé définitivement, donner la parole définitive et juste, toujours aux parents, qui m'interdit.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces précieux conseils. Donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée à la neurophysiologie des contes de fées. Et oui, vous verrez que les sciences peuvent expliquer certains phénomènes merveilleux comme le sommeil de la Belle au bois dormant par exemple. Ça va être passionnant, je vous l'assure. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. Aujourd'hui dans l'équipe sauvage, une immense actrice. Elle a tout simplement reçu le César 2019 de la meilleure actrice. C'est Léa Drucker qui passe l'après-midi avec nous. Léa Drucker, émouvante souvent, drôle encore plus.
Merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite une très bonne émission et vous surtout, restez sur Europe 1.